VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Kenya, sommet de Nanyuki sur le commerce de l'ivoire. Une réunion à laquelle participent les présidents du Kenya, de l'Ouganda, du Gabon ainsi que de nombreuses ONG. Dans son discours d'ouverture de la réunion, le président kenyan Uhuru Kenyatta a préconisé l'interdiction complète du commerce de l'ivoire afin d'empêcher l'extension des éléphants à l'état sauvage, décimés par les braconniers pour leur défense. Perdre nos éléphants, ce serait perdre une partie essentielle de l'héritage qui nous a été confié, a déclaré le président kenyan. Tout simplement, nous ne permettrons pas que cela arrive. Nous ne serons pas les Africains qui sont restés sans rien faire devant la disparition des éléphants, a martelé M. Kenyatta. Ce sommet précède l'incinération demain samedi à Nairobi du plus gros stock d'ivoire jamais brûlé en une seule fois. Rappelons qu'environ 30 000 éléphants sont abattus illégalement chaque année. Nouvelle violence au Burundi, 7 personnes, y compris 2 femmes et 2 enfants, ont été tuées jeudi soir dans un bar du sud-est de la capitale Bujumbura, selon le chef du quartier de Gitaramuka dans la zone Musaga. Il y a eu aussi un blessé. Depuis plusieurs jours, la violence s'intensifie dans le pays et des militaires ainsi que des hommes politiques de l'opposition sont particulièrement ciblés. Au total, plusieurs centaines de personnes sont mortes depuis avril 2015. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
L'horreur se lit sur les visages des femmes et hommes rencontrés au quartier Gitaramuka de la zone de Musaga au sud-est de Bujumbura. Une maman et son fils sont en train d'être lavés avant de conduire leur corps au cimetière. Des voisins, par solidarité, confectionnent un cercueil pour le bébé de 3 ans tué jeudi soir vers 22h avec d'autres voisins. Le chef de quartier de Gitaramuka résume la scène macabre de jeudi soir, Alexis Nimirangez.
C'était aux environs de 22h quand des personnes vêtues des imprimables de la police ont commencé à tuer sur les gens qui sont en train de prendre la bière. Et il y a eu 5 victimes sur place et 3 blessés. Les 3 personnes qu'on a amenées à l'hôpital, 2 ont succombé à leurs blessures, d'après les informations reçues.
Parmi les victimes figurent un sous-officier de l'armée burundaise. Le porte-parole de la police parle, lui, de terrorisme aveugle, car le militaire n'était pas visé à la veille. Et pour parler d'Arusha en Tanzanie, l'on assiste à une recrudescence de la violence. La communauté internationale appelle au dialogue sans condition, mais les autorités refusent toujours de s'asseoir avec ce qu'ils qualifient de criminels. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En Afrique du Sud, la justice sud-africaine a estimé aujourd'hui que la décision du parquet d'abandonner en 2009 des charges de corruption qui pesaient sur le président Jacob Zuma dans une affaire de contrat d'armement quelques semaines avant son élection à la magistrature suprême était irrationnelle, ce qui ouvre la porte à un possible rétablissement des accusations en question, selon les observateurs. Ces derniers estiment que la décision de la Haute Cour de Pretoria ce vendredi rend possible de nouvelles poursuites contre le président Zuma pour les 783 charges de corruption, fraude et rackets formulées à l'époque contre lui et abandonnées en 2009 pour vice de forme. Au Soudan du Sud, le président sud-soudanais Salva Kiir a formé son gouvernement de transition, partageant le pouvoir avec les ex-rebelles de son vice-président Riek Machar. Une étape cruciale dans un processus de paix longtemps retardé. Anastasie Tudiech.
La formation du nouveau gouvernement d'unité nationale de transition intervient 3 jours après le retour de Riek Machar à Juba et sa prestation de serment en tant que vice-président, comme prévu par l'accord d'août 2015. Selon les termes d'un accord de paix signé le 26 août 2015, les 30 postes de ministres sont partagés entre le camp de M. Kiir, le camp du rebelle redevenu vice-président Riek Machar, ainsi que d'autres partis, notamment de l'opposition. Le portefeuille du pétrole, quasi unique source de revenus du pays, a lui été accordé à Dak Duop Bishok, un ancien rebelle. Malgré les progrès réalisés récemment, dont le retour de M. Machar à Juba, une coopération fructueuse au sein du gouvernement est loin d'être acquise. L'animosité entre les camps de M. Kiir et Machar reste profonde, alors que leurs forces armées cohabitent dans la capitale.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Burkina Faso, la Cour de cassation de Ouagadougou a annulé les mandats d'arrêt internationaux lancés par la justice militaire dans le cadre du putsch de septembre 2015. Plus de détails avec Bagassi Koura.
Sont concernés les mandats contre l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré ou le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Le mandat contre Guillaume Soro avait été émis le 8 janvier dernier en rapport avec l'affaire du putsch de septembre 2015. Le procureur général de la Cour de cassation, Armand Ouédraogo, a expliqué hier à VOA Afrique que ces mandats ont été annulés pour vice de procédure. Le commissaire du gouvernement, explique-t-il, reproche au juge d'instruction de ne l'avoir pas saisi dans l'émission des mandats comme le stipule la loi. Le juge d'instruction explique que le procureur peut, s'il le juge nécessaire, renouveler les mandats en tenant compte des formalités.
Au Niger, l'état d'urgence prorogé de 3 mois dans la région de Diffa, dans le sud-est du pays, proche de la frontière du Nigeria. Cet état d'urgence qui accorde des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit, a été instauré en février 2015 après les premières attaques du groupe islamiste nigérian Boko Haram contre le Niger. Il a été depuis reconduit plusieurs fois du fait de la persistance des raids meurtriers des djihadistes. Nicolas Pino a joint le gouverneur de la région de Diffa, le général Abdou Kaza.
Du côté des terroristes de Boko Haram, les exactions ont cours de temps en temps et par endroits. Il s'est trouvé également que la dernière fois avec les opérations menées, Boko Haram est encore là. De temps en temps, nous-mêmes, nous menons des actions qui prouvent que Boko Haram n'a pas été totalement vaincu. C'est ce fait que les autorités nigériennes, ayant fait le point de situation, ont jugé utile de proroger donc cet état d'urgence.
Qu'en est-il de l'économie, notamment le commerce du poisson?
En fait, le commerce du poisson est justement l'activité la plus incriminée, preuve à l'appui, et dans l'acquisition de capacités de nuisance de Boko Haram. Et c'est pour cela que jusqu'à présent, nous pensons que la faiblesse observée au niveau de ce mouvement terroriste est liée donc aux difficultés qu'il a eues à continuer à prospérer à travers le commerce du poisson.
La circulation des véhicules est interdite à partir de 19h, 20h pour les piétons. Quand estimez-vous que les populations de Diffa pourront retrouver une vie normale?
C'est ce que nous recherchons nous-mêmes. Notre souci est d'aller le plus rapidement possible vers une fin de cette situation. Donc le traitement qui est en cours est en train de porter ses fruits. Nous espérons que d'une manière ou d'une autre, le résultat sera probant dans un certain avenir comme serait déterminé aujourd'hui. Et la population sait très bien ce qu'elle a vécu comme difficulté et qu'elle a continué même maintenant à vivre par moments dans certaines positions, dans certaines contrées de la région. Donc elle comprend parfaitement la situation, elle contribue de par donc sa bonne compréhension et parfois sa collaboration même directe par rapport donc au traitement de cette affaire.
Le général Abdou Kaza, gouverneur de la région de Diffa au Niger. Et puis au Mali, une enquête a été ouverte sur un vol d'armes au sein des forces armées qui s'est traduite par la mise aux arrêts d'au moins 6 militaires et la brève suspension de 2 officiers supérieurs. D'après l'AFP, une source proche de l'enquête a évoqué la piste d'un possible trafic d'armes en lien avec le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR des groupes armés loyalistes ou de l'ex-rébellion prévu par l'accord de paix signé en mai-juin 2015. Dans son édition de jeudi, le quotidien pro-gouvernemental malien L'Essor fait également état de vols d'armes de guerre au sein de l'armée, citant des sources de sécurité non identifiées selon lesquelles un nombre important de fusils semi-automatiques et de pistolets mitrailleurs, autrement dit des Kalachnikov, ont été dérobés des dépôts d'armes de la garde nationale. Et puis en Gambie, la justice gambienne a renvoyé le procès du chef de l'opposition Ousmane Darbo et de 19 co-prévenus au 5 mai. Ils avaient été arrêtés pour rassemblement illégal et sont désormais accusés par le parquet de complot. Une partie des prévenus a été arrêtée le 14 avril après un rassemblement pour réclamer des réformes politiques et les autres le 16 après une manifestation contre la mort en détention de responsables de l'UDP, Solo Sandeng. Monsieur Darbo, chef du Parti démocratique uni, UDP, principale formation d'opposition, et ses 19 co-prévenus, incluant un nouvel accusé, Massanela Lodjaola, ont tous plaidé non coupables pour cette nouvelle inculpation de complot en vue de commettre un crime devant la haute cour de justice à Banjul. Et pour terminer, en Tunisie, un homme a été blessé par balle lors d'une attaque perpétrée par 2 djihadistes dans une zone montagneuse du nord-ouest du pays. C'est ce qu'a indiqué le ministère de l'Intérieur. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. www.voixinghtonfm.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.